Bonjour à tous. À la une ce matin, le plan banlieue d'Emmanuel Macron, il le dévoile ce matin à Tourcoing. Coup de pouce aux entreprises qui embauchent dans les quartiers, lutte contre la discrimination, on en verra le détail. On entendra également le nouveau coup de griffe de Martine Aubry sur les premiers mois du quinquennat. Quand Engie ne répond plus, l'ex-GDF Suez est accusé de délocaliser ses plateformes téléphoniques et de les sous-traiter à l'étranger, là où le coût de l'emploi est nettement moins cher. C'est le moment ou jamais de faire le tri dans sa pharmacie. 60 millions de consommateurs publient la liste noire des médicaments inutiles ou dangereux et mettent en garde contre l'automédication. Dans 20 minutes, votre invité Nicolas, il est l'un des acteurs majeurs du tourisme et du logement en France. Mais à quel prix? Vous recevez le patron d'Airbnb France.
Emmanuel Maril, qui dialoguera avec vous si vous êtes propriétaire, locataire, usager d'Airbnb, si vous êtes un professionnel du tourisme également. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, une solution concrète en cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées. L'équipe de France de ski sous le choc. Après la mort accidentelle du descendeur David Poisson, il s'est tué au Canada lors d'un entraînement hier. Et puis les dieux du foot n'étaient pas avec eux. Les Italiens regarderont la Coupe du Monde à la télé. Selfie, promenade surprise au pied des tours et échange avec les habitants. Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée dans les banlieues. Entamée hier à Clichy, près de Paris, elle s'est poursuivie dans la soirée à Roubaix, dans le Nord. Séance de questions-réponses et reportage Laurence Perron.
Monsieur le Président ! Deux heures que les Roubaisiens l'attendaient dans le froid.
Est-ce qu'il peut venir là ? Parce que depuis 5 ans, je n'ai pas été augmenté.
Le Président s'excuse, écoute, promet, il y aura du mieux l'an prochain, serre des mains, embrasse un nourrisson qu'on lui met d'autorité dans les bras.
Je suis à vous. Allez-y.
Une jeune rappeuse l'interpelle au sujet d'une de ses amies radicalisées partie en Syrie.
Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Ziani Lina. Je voulais savoir comment Monsieur le Président, vous allez juger ces gens en fait qui sont partis, qui ont été pris par des milices en fait.
Nous on a un examen introspectif à faire qui est comment des jeunes qui sont nés dans notre République peuvent être tentés par ça. C'est que quelque chose a dysfonctionné. C'est que nous aussi on a échoué. Moi je vous regarde dans les yeux, c'est votre ami. Mais j'ai regardé dans les yeux ce matin les parents, les frères et sœurs de ceux qui sont morts le 13 novembre. Et ils ont été tués par des gens qui à Raqqa ont fomenté un attentat. Qui se sont battus peut-être avec la jeune fille qui est partie. Mais c'est très grave ce qu'elle a fait.
Le velours et le fouet. Dans ce moment où le président s'apprête à proposer au quartier populaire un arsenal anti-discrimination, il avertit, la République, ça se mérite. À Roubaix, Laurent Lucas, Laurence Perron, France Inter.
Oui, aujourd'hui, c'est donc à Tourcoing, l'une des villes les plus pauvres de France, qu'Emmanuel Macron annoncera son plan pour les banlieues. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
On en connaît déjà l'essentiel, à commencer par le retour des emplois francs.
Oui, une prime à l'embauche pour les employeurs qui choisiront des candidats venant des quartiers prioritaires. Dispositif expérimenté sous Hollande qui n'avait pas fonctionné. 250 contrats signés à peine, mais cette fois, l'enveloppe incitatrice sera plus importante. 5000 euros par an pour un CDI et concernera plus de tranches d'âge.
Autre frein à l'emploi, ce sont les discriminations à l'embauche.
Et là, le gouvernement réfléchit à la montée en puissance des campagnes nationales de testing initiées il y a un peu plus d'un an par le ministère du Travail. Ces envois massifs de faux CV pour détecter les entreprises qui discriminent et pour ne laisser aucun collégien sur le carreau au moment des stages de troisième. Ce sont les principaux dans les établissements qui seraient désormais en charge de trouver les fameux stages en entreprise. Accès aux bureaux de poste, aux crèches, aux maisons de santé, à la police sur tous ces sujets brûlants parfois dans certains quartiers. Le gouvernement dit vouloir un changement de méthode, de financement aussi, avec une priorité à l'intérieur de chaque ministère donné à ces territoires. On verra si tout ça répond aux attentes très vives des élus et des associations de quartiers prioritaires qui se sentent vraiment laissés pour compte depuis quelques mois et qui réclament de leur côté un véritable Grenelle des quartiers.
Merci Claire Chaudière. Et qui dit déplacement présidentiel dans le Nord, dit aussi Martine Aubry. La maire de Lille a échangé avec le chef de l'État hier soir. Elle lui a redit tout le mal qu'elle pense de la réduction du nombre des contrats aidés et plus généralement de sa politique tout court. À la sortie, visiblement, on n'est pas prêt de les réconcilier.
Moi, je suis totalement sceptique parce que je pense réellement que ce n'est pas une politique qui va mener vers la croissance et vers l'emploi. Je pense que c'est une politique qui est souvent brutale. Par exemple, les mesures sur le logement social. Quand on enlève autant sur le logement social pour baisser de 4 milliards l'ISF, on peut se demander où est l'intérêt économique, où est la modernité. Alors comment faire un grand discours de la politique de la ville quand on casse déjà le logement social et les emplois aidés, qui était un autre sujet sur lequel on a parlé. Quand on a entendu dire que les emplois aidés ne servaient à rien, ou c'est de la méconnaissance, ou c'est du mépris. Alors il nous a dit qu'il y avait eu beaucoup de clientélisme dans les emplois aidés. J'ai l'impression comme une absence de confiance dans les collectivités locales, et j'ai l'impression d'une recentralisation dans beaucoup de domaines. La modernité, c'est quand même la décentralisation. Ou alors on ne peut pas être un président du 21e siècle.
Voilà la colère froide de Martine Aubry au micro Claude. Stéphane Barbereau de France Bleu Nord.
8h06, le groupe Engie à nouveau montré du doigt.
La semaine dernière, on apprenait dans les Paradise Papers qu'il est l'un des champions de l'optimisation fiscale, mais il l'est également pour les délocalisations. Les syndicats accusent la direction de vouloir supprimer des centaines d'emplois dans ses centres d'appel en France pour mieux les confier à des sous-traitants dans des pays à bas coût. Délocalisation en catimini et grève aujourd'hui à l'appel de l'ensemble des syndicats. Delphine Simon.
En un an, ce sont 20% des activités clients d'Engie assurées par les sous-traitants qui ont quitté la France. Direction le Maroc, le Portugal, mais aussi l'île Maurice, où le coût de la minute de travail d'un conseiller client est de 20 centimes, 9 fois moins qu'en France, selon les syndicats. Confrontée à la baisse des prix du gaz, la direction d'Engie réduit les coûts. Elle veut élargir l'expérience au Sénégal et au Cameroun. D'ici la fin de l'année, la part des services clients délocalisés monterait à 30%. À ce compte-là, le modèle low cost va s'imposer. La quasi-totalité des services aux clients sera bientôt externalisée, estime Patricia Chastan de la CFE-CGC.
Jusqu'à présent, la direction n'avait avoué qu'une expérimentation. Mais quand on en est à 1200 emplois offshorisés, on n'appelle pas ça de l'expérimentation. Et d'ailleurs, la quantité de postes que la direction ne republie pas à l'interne démontre bien que l'activité qui existe et qui est exercée par les salariés dans ces postes s'en va bien ailleurs.
Paradoxe, selon elle, pendant qu'Emmanuel Macron dénonce le dumping social en Europe, l'État actionnaire de référence le tolère chez les sous-traitants d'Engie.
Là aussi, il est question d'emplois qui partent à l'étranger, cette fois chez Castorama et Brico Dépôt. Le groupe va délocaliser certaines activités en Pologne sur le site de Cracovie. Les syndicats chiffrent à 500 le nombre d'emplois menacés. Comment leur faire une place au bureau ou à l'usine? La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées se tient en ce moment. On sait que certaines entreprises restent réticente parfois quand il s'agit d'embaucher, d'où l'initiative lancée à Montreuil, près de Paris. Une société baptisée Défi a décidé de faire avancer la cause des sourds et malentendants en leur proposant des emplois et de l'aide. C'est un reportage de Maxime Deps.
Défi, c'est un centre d'appel particulier, une plateforme téléphonique, pas comme les autres, où règne un certain silence pour le moins surprenant.
On n'entend rien parce que ce sont des conseillers sourds et c'est vrai que c'est une ambiance qui change complètement par rapport au centre d'appel habituel.
Seul à pouvoir s'exprimer par la voix, Morgane supervise le travail des quatre conseillers derrière leur clavier. Tous malentendants, leur mission, répondre par signe, via webcam ou simplement par écrit aux personnes atteintes, elles aussi, de carences auditives et clientes d'SFR, La Poste ou encore Décathlon, des groupes ayant de plus en plus recours à ce type de service, mis en place il y a 8 ans par le patron de Défi, Jean-Charles Correa.
Quand on pense handicap, on pense fauteuil souvent, et c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la surdité aujourd'hui, communiquer avec un commerçant, avec une banque, avec une administration, que ce soit sur place ou à distance, c'est compliqué. Donc nous, on s'attelle à essayer de limiter cette gêne et à faire en sorte que la vie quotidienne des gens qui sont sourds ou malentendants soit facilitée.
Cet entrepreneur qui le déplore aujourd'hui, seule une centaine d'entreprises en France auraient pris réellement conscience de la problématique, avec toutefois une lueur d'espoir. Cette obligation désormais inscrite dans la loi, tous les services clients des grandes sociétés devront être adaptés aux sourds et aux malentendants, et ce, à compter d'octobre 2018.
Octobre 2018, ce sera également la prochaine hausse de l'allocation adulte handicapé. Les députés l'ont votée cette nuit. Elle sera revalorisée de 50 euros. Il enchaînait les revers ces derniers temps. Pas cette fois, le Conseil d'État donne raison à Dieudonné dans son bras de fer avec Marseille. La ville refusait qu'il se produise sur place dimanche prochain. Elle redoutait des troubles à l'ordre public, mais le Conseil d'État a tranché, jugeant que cette annulation aurait représenté, je cite, une atteinte grave à la liberté d'expression.
France Inter, 8h10, trop cher, inutile ou même dangereux. 60 millions de consommateurs marquent mais le nez dans nos armoires à pharmacie.
Le magazine a étudié les bénéfices d'une soixantaine de médicaments les plus vendus, tous disponibles sans ordonnance. Le résultat, Véronique Julia, c'est qu'il faut faire le tri. La moitié de ces médicaments sont à proscrire.
Sur les 62 médicaments passés au crible, 21% ne représenteraient pas de danger, 33% sont considérés comme passables et 45% sont à éviter absolument. Dans cette liste noire, on trouve les antirhumes classiques qui contiennent de la pseudoéphédrine, une molécule qui décongestionne le nez mais qui augmenterait aussi le risque d'infarctus et d'AVC. Idem pour les antitussifs, c'est même pire puisque dans cette catégorie, 60% de ce qui est proposé en libre accès serait à proscrire, sans compter les pastilles pour la gorge qui contiennent plus de sucre que de composants réellement également efficace, autant prendre des bonbons au miel, préconisent les spécialistes, d'autant que ces médicaments sont chers, ce qui constitue l'autre point noir de cette étude. D'après ses auteurs, le laboratoire pharmaceutique, à qui on demande de gros efforts d'économie sur les médicaments remboursés, se rattrape inévitablement sur ces produits en accès libre. Ils vont même jusqu'à commercialiser des produits strictement identiques, mais pour deux marchés bien distincts. Exemple, le Gaviscon, remboursable, il est vendu 2,59€. Son clone, le Gavisconel, même labo, même molécule et qui n'est pas remboursé, est vendu, lui, jusqu'à 7€.
La liste de ces médicaments à bannir avec leur nom sur franceinter.fr. Autre information pratique qui vous concerne ce matin, si vous êtes en Île-de-France, grosse difficulté dans les transports en commun. Le trafic est interrompu sur le RER D à Paris, entre les stations Gare du Nord et Gare de Lyon, en raison d'une coupure électrique. Trafic très perturbé également, et pour les mêmes raisons, sur une autre ligne, la ligne B du RER. Pas de retour à la normale prévue avant la fin de matinée.
Et aux États-Unis, Marc, nouvelle révélation dans le scandale qui ébranle la Maison Blanche.
Celui sur les soupçons de collusion entre le candidat Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine pendant la campagne pour la Maison Blanche. Dernière information en date, on apprend que le fils aîné du président Donald Trump Jr. aurait à plusieurs reprises échangé des informations avec le site WikiLeaks, alors même que ce site est considéré par la CIA comme une organisation liée au Kremlin. Explication du correspondant de France Inter aux États-Unis, Grégory Phillips.
Durant cette présidentielle américaine, et cela est su de tous, WikiLeaks a joué un rôle important. Par exemple, en juillet 2016, alors que s'ouvre la convention démocrate, en publiant des milliers d'emails volés dans les ordinateurs du comité national, ou quelques mois plus tard, en octobre, en diffusant là aussi des courriers électroniques du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. Ce que le magazine The Atlantic révèle, c'est que le fils aîné de Donald Trump a sur une période de 10 mois échangé avec WikiLeaks quelques messages que Trump Jr. a d'ailleurs publié cette nuit sur son compte Twitter pour montrer le côté anodin de la chose. Dans l'un de ces messages, le fils du candidat demande à WikiLeaks de quelle nature seront les fuites que le site internet s'apprête à diffuser quelques jours plus tard. Si ce dialogue n'est pas allé beaucoup plus loin, il est quand même la preuve d'un échange entre un membre important de la campagne de Trump et une organisation non gouvernementale que le patron de la CIA qualifiait au printemps d'hostile et manipulée par les Russes. Durant toute sa campagne, le candidat Trump, lui, n'a eu de cesse de vanter les mérites du site, comme ici en octobre 2016.
This just came out. WikiLeaks, I love WikiLeaks.
Regardez ce qui vient de sortir, WikiLeaks, j'adore WikiLeaks, qui encore une fois lui fournissait de la matière pour attaquer sa rivale, Hillary Clinton. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Toujours à l'étranger, la Grèce tourne lentement la page de l'austérité après des années de purge. Le gouvernement va faire un geste pour les plus pauvres, annonce surprise hier soir à la télévision du Premier ministre Alexis Tsipras. Il débloque 1,4 milliard d'euros pour les ménages et les retraités les plus modestes. Un pays sort de la crise, un autre s'y enfonce. Le Venezuela est au bord du défaut de paiement. La réunion prévue hier avec les créanciers s'est soldée par un échec. Et ce matin, l'agence de notation Standard & Poor's place le pays en défaut partiel sur sa dette.
Les sports et le ski français sous le choc.
Après la mort accidentelle de l'un de ses champions, le descendeur David Poisson, 35 ans, il s'est tué à l'entraînement au Canada, victime d'une lourde chute. Le président de la Fédération française de ski se dit dévasté par cette nouvelle.
C'est une terrible nouvelle. Je ne sais pas trop encore vraiment ce qui s'est passé, mais une chute qui, à la fin, c'est un décès accidentel et c'est vraiment dramatique. C'est l'horreur. On est tous dévastés. Alors, bien sûr, on pense d'abord à la famille, à ce moment, à sa femme et son enfant. C'est une épreuve terrible. Puis pour nous, tout le ski français. David, c'était un gars super, un gars toujours de bonne humeur, toujours enthousiaste à l'effort. Et à 35 ans, logiquement, c'était le challenge olympique qui l'attendait. Il avait remis le couvert, refait une saison en pensant être dans l'équipe olympique. Et c'était certainement sa dernière saison, oui. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de mots, c'est l'horreur absolue.
Michel Vivion, le président de la Fédération française de ski, avec Richard Vivion. Ce sera sans eux, l'Italie dit ciao à la Coupe du Monde, elle qui n'en avait raté que deux jusqu'ici. Les Italiens ont été éliminés par la Suède. Hier soir en barrage, leur gardien légendaire Gianluigi Buffon ne sera pas le premier joueur à disputer 6 Coupes du Monde et il n'a pas pu retenir ses larmes hier soir au coup de sifflet.
Dispiace, però.
Je suis désolé. Désolé. Je suis désolé, pas pour moi, mais pour tout le football. Parce que nous avons échoué. Et même d'un point de vue social, ça peut être vraiment important. C'est le seul regret que j'ai, pas d'arrêter, mais le temps passe. Et c'est normal que ça se passe comme ça, mais je regrette juste que mon dernier match en sélection coïncide avec cette élimination.
Voilà les mots de Buffon, retraité international. Il ne jouera plus sous le maillot de l'Italie. Le foot encore, mais là c'est pour du beurre. La France se déplace en Allemagne ce soir, 20h45, match amical. C'est le dernier de l'année pour les Bleus.
Merci Marc. C'était le journal de Marc Fauvel. Tout de suite la météo, Marie-Pierre Planchon.